I can't remember when the clouds and the rain couldn't dull my day. I can't remember having a feeling so fine. I can't remember when you were the one that was on my mind. Baby, your smile, or maybe your style.
Possède la radio et la télévision.
Eh bien, c'est maintenant le grand rendez-vous.
Nous comptons sur la bonne volonté et sur la compréhension de tout le monde.
La voix.
Le progressisme, c'est l'omniprésence de la parole soi-disant libre, servie par une technologie d'une puissance de diffusion jamais vue dans l'histoire, mais en même temps, comme ils aiment dire, un appareil répressif de plus en plus sophistiqué.
Éric Zemmour, Convention de la droite, septembre 2019.
Tous ceux à qui on avait fait miroiter une libération et qui y avaient légitimement cru, les femmes, les jeunes, les homosexuels, les basanés, les juifs, les protestants, les athées, tous ceux qui se sentaient minorité mal vue au sein de la majorité des mâles blancs hétérosexuels catholiques et qui ont joyeusement déboulonné la statue au rythme saccadé des déhanchements de Mick Jagger, tous ceux-là ont été les idiots utiles d'une guerre d'extermination de l'homme blanc hétérosexuel.
Zemmour est un personnage complexe. Son discours n'est pas si simpliste que ça, même s'il est extrêmement dangereux et extrémiste à bien des égards. Zemmour, c'est un publiciste raciste, ultranationaliste, etc. Et c'est un homme dangereux, un homme dont il faut combattre le discours, combattre ses idées, parce qu'il est très diffusé, Zemmour. Hein.
Bon, rassure-toi, hein, au cours de cette émission, tu n'entendras pas plus la voix d'Éric Zemmour, qu'on subit bien assez comme ça partout sur les médias dominants, pourtant critiqué par Zemmour. Mais notre émission d'aujourd'hui est cependant consacrée à ce fasciste, notamment antisémite, dont la famille est pourtant d'origine juive. Remarque, hein, des fascistes juifs, on en avait déjà vu dans l'Italie de Mussolini, ce qui ne rajeunit personne. Mais si nous évoquons aujourd'hui ce sinistre personnage, c'est parce qu'il s'est permis de piétiner les plates-bandes de l'histoire en écrivant n'importe quoi dans un torche-cul en forme de bouquin intitulé « Destin français ». Et qu'on fasse dire n'importe quoi à l'histoire, ça ne plaît évidemment pas à notre ami André, professeur d'histoire-géographie et authentique historien. André qui vous propose ici son analyse au cours d'une conférence organisée par l'Association des Amis du Monde Diplomatique. Une allocution intitulée « Zemmour, escroc et falsificateur de l'histoire ». Salut, c'est JBD, c'est la voix off, et la parole est maintenant à André. Pendant une heure, c'est parti.
Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Je suis professeur d'histoire retraité. Mon dernier poste, c'était le lycée Balzac. J'ai travaillé aussi au lycée de Chinon, ici. Et puis, bon, avant, j'étais en Seine-Maritime. Ça n'a pas une grande importance. Ce qui est important, c'est que je reste mobilisé pour continuer à enseigner mes lueurs sur l'histoire, et en particulier sur l'histoire contemporaine. C'est un peu ce que nous faisons dans l'émission de Jean-Baptiste, c'est-à-dire que nous ne manipulons pas l'histoire, nous ne lui faisons pas subir les derniers outrages. On essaye, car la comparaison est un exercice difficile. Les situations de 1930 ne sont pas exactement les mêmes que celles d'aujourd'hui. Disons que l'histoire, pour nous, est une accroche pour éclairer un certain nombre de permanences, etc., etc. Mais le sujet n'est pas notre vision de l'histoire, mais la vision de l'histoire de Zemmour. Alors, Zemmour fait de l'histoire, il n'est pas historien de métier, hein, il est journaliste. Pour autant, on peut faire de l'histoire sans être un professionnel de l'histoire. Nous ne pensons pas que l'histoire est réservée aux historiens professionnels, universitaires, etc., etc. Mais quand même, il y a un certain nombre de précautions à prendre, quoi, en quelque sorte. Hein, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire dire n'importe quoi à l'histoire. Alors j'ai intitulé la conférence un peu rapidement « Falsification de l'histoire ». Il aurait été préférable de dire « Instrumentalisation ou manipulation de l'histoire ». Parce qu'en fait, Zemmour ne fait pas d'histoire. Il utilise l'histoire pour des démonstrations de politique d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il part d'une opinion et d'une analyse qu'il a de la situation d'aujourd'hui, et il va aller chercher dans l'histoire des exemples, des modèles ou des contre-modèles qui vont lui permettre de dire. Ce qui fait qu'il fait des allers-retours assez vertigineux, sans aucune précaution, entre le passé et le présent. Ce qui fait que des fois c'est un peu difficile à suivre. Hein. J'avais lu le Destin français parce qu'un copain m'avait dit qu'on va faire un travail sur le dernier livre de Zemmour, le Destin français. Vous voyez, c'est lourd, hein, c'est méritoire de ma part. Hein. C'est long à lire. Hein. Le Destin français, on va faire un travail dessus, on va relever toutes les erreurs historiques, toutes les falsifications, toutes les approximations, etc., etc. Et une fois que j'ai eu refermé le bouquin, pour ma première lecture, parce que j'ai relu ensuite après le bouquin, j'ai dit non, ça c'est un travail de Romain, c'est impossible. Toutes les pages fourmillent d'inexactitude, d'approximation, de coq à l'âne. C'est pas un travail d'histoire. Bon, on va pas faire ce travail-là. J'ai relu le bouquin une deuxième fois, et là j'ai dit comment est-ce que je vais aborder le sujet, c'est-à-dire comment est-ce que je vais... Heureusement, je suis tombé sur le bouquin de Gérard Noiriel. Gérard Noiriel, c'est un historien, un universitaire, qui a écrit pas mal de bouquins, dont une histoire du peuple français qui est tout à fait intéressante. Là, il a écrit un bouquin qui s'appelle « Le venin dans la plume ». Je vous le conseille, c'est agréable, facile à lire, contrairement au livre de Zemmour. Bon, c'est un vrai livre d'histoire. Il fait un parallèle entre Zemmour et Édouard Drumont. Édouard Drumont, c'est l'impérissable auteur de La France juive. C'est un publiciste des années 1880 et suivantes qui a écrit un bouquin pour dénoncer la France contrôlée par les juifs. Il est un des pères de l'antisémitisme français, qui va être ensuite repris par l'Action française, Maurras, Daudet, etc., et qui va être un leitmotiv de l'extrême droite nationaliste en France, Édouard Drumont. Et il fait un parallèle entre les deux personnages, Zemmour et Drumont, et c'est fort intéressant parce qu'il y a plus d'un point commun entre ces deux polémistes qui ont un siècle de différence. Évidemment, la situation n'est pas tout à fait la même, mais on retrouve quand même des choses intéressantes, des choses avec lesquelles on peut faire des parallèles. Bon, alors, a-t-on le droit de faire de l'histoire quand on n'est pas historien ? Oui, je continue de penser qu'il y a des ouvrages d'histoire très intéressants qui ont été faits par des gens qui ne sont pas historiens dans le temps. Les diplomates, les Quai d'Orsay laissent du temps libre, et puis également les hommes politiques. Edgar Faure a fait des ouvrages d'histoire. Edgar Faure, qui est un homme politique de la 4e République, a fait des histoires tout à fait intéressantes sur Turgot, sur la bande croûte de l'AF, etc. Qu'est-ce qui a écrit encore des bouquins d'histoire ? Henri Guillemin était prof de français, c'est un universitaire. Et il a écrit des bouquins d'histoire absolument remarquables, que vous devriez d'ailleurs lire, parce que ils sont tout à fait le contrepoint du discours zémourien sur le nationalisme. Je ne résiste pas à l'envie de vous conseiller, ça a été réédité, le bouquin d'origine est de 75, Gallimard, et ça a été fort heureusement édité de Henri Guillemin. Tout Guillemin est bon, il n'y a rien acheté, c'est comme dans le cochon. Nationalistes et nationaux, la droite française de 1870 à 1940. 1870, c'est la défaite de Sedan, le jeu plus que suspect de Bazaine et de l'état-major français, qui a préféré céder aux Allemands pour pouvoir aller casser la gueule des communards. Ce n'était pas le premier exemple de collaboration de notre droite avec la puissance étrangère, hein, contre l'intérêt national, les émigrés, par exemple, dont ne parle pas Zemmour. D'ailleurs, c'est assez extraordinaire. Les moments où il y a une trahison des élites et de la droite française qui trahit la nation, trahit la patrie, se vend à l'étranger pour des intérêts de classe, hein, il n'en parle pas, Zemmour. C'est quand même assez extraordinaire, alors que c'est le chantre du nationalisme, etc. Plus nationaliste que moi, tu meurs, etc. Mais il n'en parle pas. Il ne parle pas de ce qui s'est passé réellement en 70, ni évidemment les immigrés. C'était des aristocrates, ils ne pouvaient pas être complètement mauvais, hein, parce qu'il admire les aristocrates, Zemmour. Et également, en 1940, là, la trahison est patente. Là, il passe discrètement, il parle d'autre chose. En fait, quand ça le gêne, il parle d'autre chose, tout simplement. C'est sa tactique. Hein. Bien. Alors, donc on peut faire de l'histoire, utiliser l'histoire, même quand... Seulement, il faut prendre un certain nombre de précautions qui sont les précautions de l'histoire rigoureuse, de l'histoire scientifique. Il y a une histoire scientifique. L'histoire n'est pas une science dure, n'est pas une science expérimentale, mais elle existe un certain nombre de précautions méthodologiques on cite ses sources correctement. Lui, c'est extrêmement sommaire. Hein. J'ai dû relever à peu près 5 notes en bas de page. Vous voyez, sinon les ouvrages sont pas cités. Des fois, il n'y a même pas de guillemets, etc. Enfin, et puis, on cite ses sources et on croise ses sources. C'est-à-dire que là, ce sont des formules à l'emporte-pièce, etc., sans aucune vérification possible. Alors, bien sûr, quand on est un peu curieux, c'est pour ça que j'ai reculé devant le boulot, on prend les auteurs en question et on cherche là où il a trouvé ses citations. On serait surpris hein, si on le faisait systématiquement. Alors, la méthode Zemmour. Donc, j'ai utilisé dans Le Venin et la Plume ce qu'en dit Noiriel. Il fait donc un parallèle entre les deux. Alors, je simplifie. Hein. Drummond, c'était les Juifs, l'ennemi de la France, l'anti-France. Et chez Zemmour, c'est les Arabes. C'est peut-être extrêmement simplifié, mais c'est comme ça. En quelque sorte, la France est la victime d'une anti-France qui peut prendre des visages différents. Il n'y a pas que les Arabes. Hein. Chez Drummond, il y a aussi certains intellectuels, un certain nombre de médias. Les médias, il est d'ailleurs assez ingrat, je trouve, parce qu'il a profité des médias. Zemmour, il ne serait rien sans les médias. Les médias, à un moment donné, l'ont fait voir sous toutes ses coutures. Et il est encore présent sur des médias. En plus, il est relayé par une quantité de gens sur les réseaux, etc. Donc, la pensée de Zemmour, entre guillemets, est très largement diffusé. Donc, il y a chez Drummond comme chez Zemmour un ennemi qu'il faut débusquer et dont il faut débusquer les manœuvres scandaleuses. Drummond s'est exprimé dans un journal qui s'appelait La Libre Parole, créé en 1892. La France aux Français, en sous-titre. L'actualité a servi Drummond comme aujourd'hui l'actualité sert Zemmour. Il y a eu d'abord le scandale de Panama. C'était un scandale financier important. Ferdinand de Lesseps, à l'initiative du canal de Suez, s'est lancé dans la construction, enfin le creusement du canal de Panama, donc en créant une société financière par action et en lançant des souscriptions dans le public, etc. Alors les banques et les particuliers ont été appelés à souscrire. Et à un moment donné, le chantier a été paralysé, il n'avançait plus, et les plans étaient mal faits, ils voulaient faire un canal sans écluse, c'était pas possible, donc ils ont perdu de l'argent, c'était un gouffre financier. À un moment donné, il y a des gens qui ont bien vu que ça ne marchait pas. Alors évidemment, les financiers et les banquiers ont discrètement retiré leur pognon, mais on a continué à lancer une souscription dans le public. Donc les petits épargnants, comme d'habitude, ont été les victimes de ça. Alors bien sûr, il y avait des gens qui étaient dans le scandale, c'est-à-dire des hommes politiques, du Parti radical aussi, hein, de la République des Jules, des Républiques radicales. Il y avait des journalistes. Bon, à l'époque, la presse, contrairement à aujourd'hui, était très malhonnête. J'ai dû dire une sottise là. Et puis des financiers, évidemment, des financiers, dont certains juifs, évidemment. Alors, bien sûr, il y avait aussi des financiers catholiques, protestants, athées, voltairiens, mais le plus important, c'est qu'il y avait quand même des juifs. Donc, vous voyez un petit peu scandale juif. Hein. Ils vont refaire le coup avec Stavisky, vous savez, dans les années 30. Hein. Stavisky qui roule des petits épargnants, etc., ça marche très bien. Hein. Donc, Drummond tombe là-dessus, évidemment, comme la vérole sur le bas clergé breton, et se régale avec les scandales. Il va y avoir ensuite les attentats anarchistes. Alors aujourd'hui, c'est terroriste. À l'époque, c'était anarchiste. Vous savez, les anarchistes posaient des bombes. Il y a même un vaillant, je crois, qui a déposé une bombe au Parlement. Et il y en a un autre qui a déposé une machine infernale à la porte des mines d'Anzin, du patronat des mines d'Anzin, qui avait fait tirer sur les ouvriers. Et la machine n'a pas marché. Elle a fait long feu, les agents de police l'ont emmenée au commissariat où elle a explosé, dispersant sur les murs des agents de police. Enfin bon, en fait, ça n'a pas fait énormément de morts, ça a créé une sorte de psychose. Bon, la psychose, c'est bon la peur. C'est impeccable pour l'extrême droite, c'est idéal. C'est impeccable. Aujourd'hui encore, hein, on utilise beaucoup la peur, vous avez remarqué. Hein. Bon, bref, l'affaire Dreyfus. Alors l'affaire Dreyfus, 1896-1906, vous voyez à peu près. Là, c'est pareil, c'est le déchaînement antisémite. La France juive, le syndicat juif s'est emparé de la France, etc., etc. Et c'est une véritable hystérie antisémite en France. Il y a eu des manifestations. L'antisémitisme a très, très largement mordu, pas seulement dans les milieux d'extrême droite, chez les hobereaux de province ou un truc comme ça. Il y avait aussi l'Église catholique a été profondément antisémite. Hein. Le Pèlerin était un journal antisémite, hein. Très officiellement. Et puis également, certains milieux anarchistes et socialistes ont également, proudhoniens, ont été touchés par l'antisémitisme. Il faut dire que c'était assez profondément enraciné, en quelque sorte. Bon, je passe sur ça, etc. Alors Zemmour, c'est un curieux personnage. Il est né le 31 août 58 à Montreuil, dans la région parisienne, dans une famille de confession juive israélite, originaire d'Algérie. C'est un nom berbère, je crois, Zemmour. Il y avait des berbères juifs en Algérie, et c'était très vieux, même avant l'arrivée des Arabes. Son grand-père a fui la Kabylie natale avec les événements sans doute en 62, hein, au moment du rapatriement. Et puis, le père était un préparateur en pharmacie, puis petit patron d'une société d'ambulance. Et Zemmour a profité des Trente Glorieuses. C'est un assez bon élève. Il a été placé dans une école israélite, mais il était bon élève. Il a profité de l'école des sorties de Sciences Po en 79. Mais il a échoué deux fois à l'ENA. Ça explique peut-être la rancœur qu'il a à l'égard d'un certain nombre de politiques issus de l'ENA. Il a raté deux fois. Il parlait pas bien anglais. Ah, voilà, les Anglais encore un ennemi héréditaire. Faire fi d'Albion. Bon, il devient journaliste un peu par hasard et fait des piges, enfin, un peu partout. Au départ, il est pas connu et puis c'est un milieu relativement fermé, en tout cas. Bon, il vote Mitterrand, 81. 96, il fait des piges au Figaro. Il est un journaliste politique. Il fait des piges pour Marianne, Valeurs Actuelles, et il va en fait profiter des relations qu'il va se créer dans le milieu des médias, avec ses réseaux, avec ses copinages, etc. Et il va en profiter très largement. Au départ, il n'a pas des propos comme il a aujourd'hui, c'est-à-dire des propos provocateurs, extrémistes, etc. Tiens, j'ai noté un truc dans le contexte, un truc intéressant. Le 19 juin 1991, Jacques Chirac, maire de Paris, président du RPR, fait un discours carrément xénophobe. Vous vous souvenez peut-être hein, des odeurs, etc.
Comment voulez-vous que le travailleur français qui travaille avec sa femme et qui ensemble gagne environ 15 000 francs et qui voit sur le palier à côté de son HLM entasser une famille avec un père de famille, trois ou quatre épouses et une vingtaine de gosses et qui gagne 50 000 francs de prestations sociales sans naturellement travailler. Si vous ajoutez à cela le bruit et l'odeur, eh bien, le travailleur français sur le palier devient fou. Il devient fou, c'est comme ça, et il faut le comprendre. Et si vous y étiez, vous auriez la même réaction. Et ce n'est pas être raciste que de dire cela.
Un discours qui était xénophobe, quoi. Il est vrai qu'à l'époque, déjà, le Front National, qui, avec Le Pen, qui diffuse des idées d'extrême droite, nationaliste et raciste, etc., est déjà en plein essor. Le début de l'essor du Front National, le début des années 80, ce n'est pas un hasard. C'est, en fin de compte, quand la crise politique se dessine et que les solutions politiques se referment, l'extrême droite est là pour offrir des solutions politiques. Alors, comment raconte-t-il l'histoire ? C'est une histoire identitaire. Au départ, il y a une identité de la France. La France a une âme. C'est une grande nation. C'est une nation avec une mission civilisatrice, messianique. On est là pour apporter en quelque sorte les lumières au monde entier, en tout cas à servir d'exemple pour le monde entier, etc. Et donc c'est une histoire identitaire. Et il y a bien sûr, cette identité est menacée. Vous comprenez bien par qui elle est menacée en quelque sorte. Parce que il y a des gens qui s'assimilent, là. Il est lui-même un exemple d'assimilation. Il est immigré. Zemmour, il ne peut pas dire que l'assimilation est impossible. Ça dépend pour qui. Pour les Arabes et les musulmans, c'est impossible. Pas d'assimilation possible. Donc le gros danger pour l'identité nationale, mais c'est pas le seul. Par exemple, le danger pour l'identité nationale, c'est de se fondre dans des grands ensembles multinationaux, supranationaux, qui font disparaître la nation et la dilue dans un grand truc mondialisé, dirigé par tout sauf par des Français, en quelque sorte. Voilà. Dans cette histoire, un truc vraiment obsessionnel chez Zemmour, il y a des grands hommes, rarement des grandes femmes. Il y a un grand chapitre sur Simone de Beauvoir, mais c'est pour lui taper dessus. féministe, mais vraiment presque maladive, quoi, pathologique. Il supporte pas le féminisme, il supporte pas les homosexuels, il supporte pas les LGBT, il est machiste, enfin, revendiqué, hein. Son antiféminisme lui fait vilipender des personnages du temps de Napoléon, Madame Récamier. Il a des personnages dont il fait l'apologie, mais il a aussi des personnages qu'il descend, littéralement, qui lui servent de contre-modèle. Vous voyez, l'anti-France, etc., Madame Récamier ou Madame de Stahl. C'est épouvantable. Elle est allemande. Et banquier en plus de ça. Donc, c'est l'anti-France en quelque sorte. Alors, il admire les élites, hein, les bonnes. On sent qu'il voudrait faire partie de l'élite et qu'il y a quelque part, il y a une revanche à prendre chez Zemmour. Bon, bref. Par exemple, l'aristocratie, il a un discours légitimiste, un discours monarchiste, un discours réactionnaire pour regretter l'ancien régime. Alors, je ne le dis pas tel quel, hein. C'est net, la Révolution française a été une catastrophe. Parce que c'était quand même bien. Alors, il ne revendique pas entièrement le légitimisme. Par exemple, pour lui, le comte de Chambord était un crétin. Parce qu'avec son drapeau blanc, il a emmerdé tout le monde. Il aurait pu revenir au pouvoir. Vous vous rendez compte? Il refait le procès des légitimistes, vous voyez, des années 1870. Parce que ils auraient pu rétablir l'ancien régime et qu'ils ne l'ont pas fait. C'est criminel. Et les grands hommes, pour lui, c'est aussi les grands hommes qui ont fait l'État. D'abord, qui ont fait la France. Et ensuite, qui ont fait l'État. Alors, il récupère le discours, en fait, d'une historiographie traditionnelle, y compris républicaine, d'ailleurs, tendant à prouver qu'il y a eu encore un destin français, c'est-à-dire la France, qui est née du temps de Clovis, etc., dans les limbes du royaume franc, etc., par un parcours invincible, arrive jusqu'à la France d'aujourd'hui, ou de Gaulle, en quelque sorte, hein, c'est-à-dire une sorte d'apogée. Et les grands personnages de l'histoire, c'est ceux qui ont fait la France, Richelieu, Catherine de Médicis. Tiens, pourquoi Catherine de Médicis? C'est une femme et pourtant c'est un personnage positif. Pourquoi? Parce qu'elle nous a débarrassés des protestants. Mais oui, les protestants voulaient faire un État dans l'État, dont ne voulaient pas les Français. Alors tout ça, c'est des affirmations de Zemmour, hein. Ils voulaient faire un État dans l'État, c'était insupportable, une sorte de fédération en quelque sorte, où il n'y a personne qui commande. Heureusement, Saint-Barthélemy, certes, ça a été un peu sanglant quand même. Il fallait ce qu'il fallait. Vous pouvez lire, hein, ce que je dis, vous paraît excessif, vous paraît... C'est dedans, hein. Je vais pas faire des citations à chaque propos, mais je n'invente rien. Oui, c'était bien. En revanche, Pompadour, très mal. Vous vous rendez compte le mal qu'elle a fait à la France? La France, c'est quoi? Donc, héritage légitimiste, la France, etc. La France catholique, la religion catholique. Alors, c'est extraordinaire pour cet homme qui est né dans un milieu israélite. La religion catholique a été essentielle pour la formation de la nation française. Donc, il salue les élites de l'histoire qui ont été à l'origine de ce mariage si harmonieux entre l'Église catholique romaine et la France. Et d'ailleurs, il dit à un moment, nous sommes tous des catholiques vendéens. Ça, c'est une citation, j'ai mis entre guillemets, parce que ça m'a paru tellement étonnant. Non, parce que moi, je suis nivernais, hein, donc si vous voulez, j'aime la mojette, mais enfin, bon, bon. Attendez, je vous en trouver d'autres. Oui, c'est un type gonflé, en fait, c'est ça aussi la caractéristique de Zemmour, c'est qu'il ose tout. C'est à ça qu'on le reconnaît, d'ailleurs. Alors, les États-nations, comme la France, sont des personnages. Dans le discours de Zemmour, sont des personnages qui se battent, qui divorcent, qui se font des scènes, un peu comme les dieux de l'Olympe, qui se copufiaient, c'était ça, hein, les dieux de l'Olympe, hein. Et bien, qui se faisaient des scènes de jalousie, etc. Et alors, bien sûr, ils s'affrontent. La guerre est une grande idée. Faut la gagner, évidemment. Tu la perds, c'est que t'es pas un...
Élève la bêlure. Vous êtes premier en histoire de France. Eh bien, parlez-moi de Vercingétorix. Quelle fut sa vie, sa mort, sa naissance? Répondez-moi bien et vous aurez 10. Monsieur l'inspecteur, je sais tout ça par cœur. Vercingétorix, né sous Louis-Philippe, battit les Chinois un soir à Roncevaux. C'est lui qui lança la mode des slips et pour sa mourue sur un échafaud. Le sujet est neuf, bravo, vous aurez 9. On n'est pas des imbéciles, on a même de l'instruction. Au lycée Papa, au lycée Papille, au lycée Papillon.
Alors, le déclin de la France, encore une idée. Le déclin de la France, aujourd'hui soumise à l'Allemagne et à la Chine. Et en plus, victime de l'impérialisme anglo-saxon. Le grand héros de Zemmour, c'est Napoléon Ier. C'est un napoléonien de première, vraiment, voilà le héros. Parce que c'est un type qui est parti de rien, petite noblesse, comme Zemmour, et qui est arrivé au plus haut grâce à son mérite, parce que en quelque sorte. Il a été trahi évidemment par Talleyrand. Talleyrand très mal. Alors, et le capitalisme dans tout ça? C'est un peu comme Chancel. Et Dieu dans tout ça? Et le capitalisme, il n'en parle pas. C'est assez extraordinaire. Il fait un chapitre assez long sur Rothschild, où il règle ses comptes avec les juifs et les banquiers juifs. Alors évidemment, c'est un exercice de contorsion pour pas être antisémite tout en disant du mal des juifs, etc. Parce qu'il y a des bons et des mauvais juifs. Les bons juifs, d'après ce que j'ai compris, c'est les juifs assimilés, ceux qui se sont assimilés dans la nation française, ils ne se considèrent pas à part. Alors Rothschild, c'est un mauvais exemple parce qu'il a travaillé contre la France. Il y avait Rothschild en Angleterre, et au moment des guerres napoléoniennes, bon, ils ont un petit peu joué sur les deux tableaux, bon, c'est des banquiers, quoi. Donc, pas bien Rothschild, pas bien Rothschild. Et puis, il a travaillé contre la banque catholique, la banque française, l'Union Générale qui s'est écroulée en 1882. Donc, vous voyez... Il y a des bons banquiers et des mauvais. On ne sait pas très bien d'ailleurs ce qu'ils pensent des juifs. Il y a une très brève allusion comme quoi Zemmour admire Israël. C'est très bref. Il n'insiste pas là-dessus. Il sent bien que ce n'est pas un sujet qu'il faut trop remuer. En fait, ce qu'il admire dans Israël, c'est un État fort, un État guerrier. C'est ça qu'il prend Israël. Et d'ailleurs, il y a une propension, une tendance des auteurs de droite à aimer les régimes forts. Benoît Méchain
a écrit, entre autres, deux biographies célèbres, l'une consacrée à Atatürk, le loup gris d'Anatolie, et puis Ibn Saoud, fondateur de l'Arabie Saoudite, qui était les royaumes. Donc vous voyez, pas de préjugés religieux ni autres de la part de ces gens-là, il faut que ce soit un État fort. Il y a quand même chez Zemmour, très nettement, une affection pour les États dictatoriaux, les États où on empêche les bonnes femmes, tout ça, de venir se mêler de politique, c'est vrai, à la fin, quoi. Vous lirez, c'est instructif. Tenez, je vais vous donner un exemple de la prose zémourienne, ou en tout cas de la démarche zémourienne. Je vais vous prendre le premier chapitre de son livre sur le destin français, qui est consacré à Clovis. Clovis, vous connaissez Clovis, j'espère. Clovis, le roi des Francs. Une partie de l'inspiration de Zemmour, ça peut vous paraître bizarre, mais c'est le Lavis consacré au CM2 et au certificat d'études. Vous voyez, j'ai une édition 1933. Et c'était d'ailleurs assez bien fait. Ça avait des grandes qualités pédagogiques. On apprenait d'abord l'histoire de France, l'histoire des autres. On n'allait pas aller apprendre l'histoire des Rosbif ou des Boches. Hein. Ne parlons pas de l'histoire des Arabes. Enfin, faut être sérieux, quoi. Et donc, c'était une histoire de France et une histoire... C'était assez complet dans certains... chapitre, on aimerait que des élèves du bac aujourd'hui possèdent ne serait-ce que ce petit condensé. Non, c'est vrai, hein, je ne dis pas ça avec méchanceté, hein, mais ça s'est vachement dégradé, les programmes et les manuels. Hein, je suis quand même assez bien placé pour l'avoir constaté. Et là, ici, vous avez une histoire, Lavis, mais ce n'est pas la grande histoire Lavis. C'est un petit abrégé qui a été fait, et c'est avec la collaboration de M. Pierre Connard. C'est pas sa faute, hein. Voilà, alors c'est une partie de l'inspiration de Zemmour, ne croyez pas, hein, et en particulier sur Clovis et sur Roland à Roncevaux. Alors donc Clovis, il commence par dire qu'il a servi de modèle à nos grands hommes, entre guillemets. Hein. Clovis a servi de modèle à nos grands hommes. Alors je ne sais pas qui, hein, des noms, des citations, je ne sais pas. À l'origine, il était la référence, toujours entre guillemets, de qui ou il n'a jamais été désacralisé. Mais ce Clovis, qui était un personnage aussi intéressant aux yeux de Zemmour, a été contesté par nos historiens. Alors, c'est pareil, on ne sait pas quels historiens. Rien n'est cité, ni les sources de l'époque, ni les études qui ont été faites depuis, parce que c'est un personnage qu'on connaît quand même relativement bien. On connaît mieux la vie de Clovis que la vie de Jésus. Hein. Ces historiens sont ivres de leurs découvertes scientifiques toutes neuves. Il y a des livres qui datent de 1903 sur Clovis, non ? Il ne leur laisse rien debout. Vous rendez-vous compte comme les historiens universitaires sont des gens iconoclastes en quelque sorte. Il dit à un moment donné, tout Clovis n'est que ruine. Pour commencer, on connaît assez bien la vie de Clovis parce que Grégoire de Tours, qui était évêque ici, a raconté l'histoire de Clovis et de ses successeurs et avec force détail. Alors certes, c'est de l'histoire ecclésiastique, hein. Il y a des choses à dire là-dessus. Il y a une critique, d'ailleurs, une exégèse qui a été faite là-dessus. Mais quand même, il dit des choses extrêmement justes. Il était bien renseigné. Il faisait partie de l'épiscopat, qui était sans doute la classe la plus élevée de cette époque-là, de ces royaumes barbares. Il y a également toute une série de textes qui sont collationnés dans un recueil de textes germaniques. Des Allemands qui étaient des érudits, etc., et qui voulaient recueillir tous les textes de l'histoire, ils se sont appropriés l'histoire de Clovis. D'ailleurs, on a une histoire apologétique de Clovis par un Allemand en 1903. Parce qu'ils s'approprient, c'était leur histoire, en quelque sorte. Bon, pour Zemmour, c'est l'histoire française, puisqu'il a créé le royaume de France. Ce qui est faux, d'ailleurs. Il a créé le royaume des Francs. Le royaume des Francs, c'était pas le royaume de France. C'était un royaume patrimonial, d'ailleurs. Quand il est mort, ses enfants se sont séparés le royaume à chaque fois qu'il y avait une succession chez les Mérovingiens. Tiens, toi, tu prends ce morceau-là. Moi, je prends ce morceau-là. Vous voyez un petit peu le genre de truc. Et jusqu'à Charlemagne, c'est un peu comme ça qu'on a procédé. On a fait des morceaux. La conscience nationale n'existait pas. Donc, Clovis, victime d'un Clovis bashing. Je cite Zemmour, trop allemand, trop romain, trop catholique. Moi, je rajoute trop blanc. Trop violent, trop sanguinaire. Je rouvre les guillemets. Tous ceux qui passaient pour des valeurs fondatrices, maintenant, ce sont des défauts. Aux yeux de qui, on ne sait pas. Ah, nos historiens, c'est vrai, j'avais oublié. Je reprends la prose zémourienne. Ouvrez les guillemets. Toutes les subtiles contradictions de son personnage, qui en faisait l'incarnation des subtiles contradictions françaises. Il se répète, c'est redondant. Fermez les guillemets. Donc, Clovis serait un personnage subtil. Et c'est curieux, d'ailleurs, on lui a donné plein de qualificatifs, sauf subtil. Alors donc, désormais, ce sont des tares nationales que l'on veut effacer. Alors bon, alors là, on a du mal à étouffer un fou rire quand on lit la prose de Zemmour. Enfin, c'est nerveux, hein, excusez-moi. On a là un exemple typique du procédé zémourien. Il a tiré de ses lectures enfantines, il a construit des personnages historiques qui lui servent ensuite à illustrer ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire l'histoire est bafouée par les historiens, les sociologues, etc., et contre l'intérêt français, contre la nation, en quelque sorte. Donc il se fait une certaine idée de la France, etc., et je le répète, hein, certaines de ces idées doivent beaucoup au Lavis. Donc cette grande idée de la France, blanche, géniale, phare du monde, est démolie par d'ignobles historiens actuels, anti-français, qui s'applique à dénigrer nos grands hommes, etc., qui sont nourris aux grandes qualités françaises. Heureusement, il y a Super Zemmour qui est là pour pourfendre l'anti-France. Vous vous souvenez peut-être de l'anti-France ? C'était Super Dupont. L'anti-France ! Et rétablir la vérité historique. Alors, reprenons. Les historiens qui ont étudié le personnage et l'époque, que nous connaissons assez bien, je dis, grâce à des documents écrits, enfin bon, j'ai quand même lu Grégoire de Tours, moi, hein, j'ai quand même, hein, et puis une partie de la vie de Saint Frédéguer, etc., Cassiodore, bref, et puis les lectures modernes. Il y a des spécialistes de l'histoire franque qui ont écrit sur les ancêtres de Clovis, on ne sait pas trop, c'est plongé dans l'incertitude et la légende, là, pour le coup, on ne sait pas grand-chose. La femme de Clodion se baignait dans la mer, un monstre s'unit à elle. Un fils naquit, Mérovée, d'où Mérovingien. La légende ne dit pas s'il avait une queue de poisson. Childéric est fils de Mérovée, il est allié des Romains. Donc au départ, les Francs, ce sont des barbares qui sont établis du côté de la Belgique, hein, vous voyez à peu près où c'est, à Tournai. Et c'est leur centre, hein, historique. Et ils sont mercenaires au service des Romains. D'ailleurs, jusqu'à Clovis, ils participent aux guerres entre des généraux gallo-romains, enfin romains, etc., de ce qui reste de l'Empire d'Occident. Et ensuite, après, bah, ils vont travailler pour leur compte. Les Francs disent, pourquoi travailler pour le compte de Siagrius ou d'un quelconque général romain ? On va travailler pour nous. Et voilà comment, en quelque sorte, les Francs se sont conquis un royaume. Ils n'étaient pas très très nombreux. Alors, voyons ce qu'il en est des subtiles contradictions de Clovis. Donc, il est fondateur, dans une partie de l'ancienne Gaule romaine, d'un royaume barbare franc qui deviendra la France, plus de 500 ans plus tard. Clovis, c'est 500. On commence à parler d'un royaume de France en 900, le royaume capétien, et encore, c'est pas grand-chose. Hein. Donc si on regarde bien, ça fait 400-450 ans d'écart entre Clovis et la fondation de ce qui deviendra vraiment le royaume capétien, en quelque sorte. Alors pour créer ce royaume, Clovis fait un truc qui soulève l'admiration de Zemmour, il s'allie aux évêques catholiques. Il se marie avec une femme catholique, Clovis, qui est un païen, hein, enfin, et elle lui suggère de s'allier avec les évêques. En fait, les évêques sont la seule puissance politique de l'époque. Les évêques vont se servir de Clovis, et Clovis des évêques. Clovis se sert des évêques pour établir son pouvoir politique, et les évêques vont se servir de Clovis pour combattre l'arianisme. Dans le sud-ouest, la région aquitaine est tenue par des rois visigoths ariens, c'est-à-dire une variante du christianisme qui gêne beaucoup les catholiques. Et ce deal est marqué par le baptême de Clovis à Reims, ça vous connaissez, par l'évêque Rémy. Et c'est d'ailleurs cette cérémonie qui est quelque part refaite à chaque fois qu'il y a un sacre à Reims. C'est pour se rattacher à ça, et ça marque l'union entre le royaume, la monarchie et l'Église. Je te protège, tu me protèges, on s'arrange et on fait une maf qui marche bien. Je vais faire un peu de storytelling, un petit peu décrire les méthodes subtiles de Clovis. Il veut assujettir le roi des Francs, Sigebert, qui réside à Cologne, parce que bien sûr, il n'est pas le seul roi franc. Il y en a encore 5 ou 6 des rois francs. Il faut les réduire. Alors, Sigebert réside à Cologne. Alors, Clovis envoie discrètement, secrètement, des messagers à Cloderic, fils de Sigebert. En substance, il lui dit « Ton père a vieilli, il boite. S'il venait à mourir, ton royaume te reviendrait avec notre amitié. » Cloderic comprend le message, il fait égorger son père et avertit Clovis et il lui demande d'envoyer des messages pour recevoir des présents. Ben, il faut bien qu'il se fasse payer quand même, hein, pour ça, c'est subtil. Hein, subtil, surtout l'assassinat du père. Alors, au moment où Cloderic plonge les mains dans le coffre, l'un des messagers de Clovis le tue d'un coup de hache. Toujours très subtilement, bien sûr. Alors, Clovis se présente devant les guerriers de Sigebert et lui, c'est pas moi. Moi, je suis innocent. Alors, à Cambrai régnait Ragnacar et son frère Richard. Un autre frère de Ragnacar, Rignomer, est mis à mort au Mans, sur l'ordre de Clovis. Ensuite, c'est le tour de Chacharic et de son fils. En fait, il a été caractérisé par la plupart des historiens de astucieux, violent, cruel, mais jamais subtil. Jamais subtil, c'est la subtilité du coup de Francisque derrière les oreilles. Voilà. Alors, à quoi sert Clovis dans le discours zémourien? Première chose, il illustre l'immigration. Mais une immigration réussie. Il le dit avec beaucoup de naïveté. C'est une immigration, d'abord c'est des Blancs, des Blonds aux yeux bleus, grands, qui, paraît-il, contraste avec les Gallo-Romains qui seraient, j'ouvre les guillemets zémouriennes, petits hommes bruns, virgule, rablés et courtauds de type méditerranéen. C'est absolument faux, bien sûr, évidemment. Il y avait autant de Blonds chez les Gallo-Romains que de bruns chez les Francs. Enfin, ces conneries, ça tient pas. C'est idiot. C'est comme si vous allez en Bretagne, il y a des Blonds et il y a des petits bruns. Tout simplement parce que, en fait, nos caractères dominants, longtemps, hein, bon, ça peut changer un peu aujourd'hui, mais longtemps, c'était les caractères des tribus gauloises, des premières grandes migrations qui ont eu lieu deuxième millénaire avant Jésus-Christ. Donc, tous les trucs sur les Arabes, sur les Sarrasins, les trucs comme ça, c'est du pipeau. Mais lui, il reprend ça, lui, et puis ça lui va dans le discours. Parce que, voilà, c'est bien, c'est une bonne immigration. Et il le dit, hein, géant blond aux longs cheveux, etc., etc. Il y a quand même toujours un petit truc nazi qui traîne à chaque fois chez Zemmour. Drummond est beaucoup pour dans l'invention de Arien, cette fois-ci avec un Y, et non pas Arien avec un I pour les chrétiens. Arien et sémite. Je vous rassure, hein, nous sommes des Ariens.
C'est pas vrai.
En fait, c'est un concept dans la bouche des idéologues racistes, nazis, etc. Ça se veut un concept ethnographique, etc. C'est faux. C'est un concept linguistique. Il y a des langues ariennes. Et c'est étudié. Enfin, on connaît très mal le rameau originel de toutes les langues ariennes, latin, grec, germain, slave, tout ça vient en fait d'un rameau linguistique. Mais de race, il n'y a pas de race arienne. Ça, c'est des inventions pures et simples.
Non, c'est des langues indo-européennes et les Grammairiens Hans Bopp, grammairien général à la fin du 18e siècle, a inventé
le terme.
Les langues indo-européennes qu'il a appelées l'arien allemand.
Oui, c'est une invention. Même en matière de linguistique, le mot arien est inadapté. Merci de cette précision.
Mais les nationalistes hindous d'aujourd'hui se disent, eux, les vrais ariens.
Oui, oui, d'ailleurs, ils peuvent à bon droit revendiquer. Trop bronzé pour Zemmour. En fait, Zemmour là, reprend un petit peu la théorie de Boulainvilliers, un écrivain du XVIIIe siècle, qui a écrit un livre pour développer une thèse qui a été reprise ensuite par un certain nombre de gens avant la Révolution française, comme quoi les roturiers descendent des Gallo-Romains, peuple conquis, et la race des vainqueurs descend des Francs, et c'est les nobles. Donc les nobles, c'est légitime qu'ils soient nobles parce qu'ils descendent de la race des vainqueurs. C'est une thèse qui a été donc développée au XVIIIe siècle par un certain comte de Boulainvilliers. C'était la littérature aristocratique. Évidemment, chez les nobles, c'était une théorie qui était bien acceptée. C'est normal, on est noble. C'est, bon, évidemment, c'est de la blague. Mais là, on voit que chez Zemmour, bah oui, c'est l'origine de l'aristocratie. Alors bon, c'était une aristocratie un peu brutale. Mais c'est un petit peu comme chez les gangsters. Tu vois, après deux générations, ça y est, ils se sont rangés, ils sont dans les affaires. Ils jettent un voile pudique sur des origines assez brutales, en quelque sorte. Voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, Roland à Roncevaux. Encore un personnage qui a été indûment sorti de l'histoire de France et dénigré par nos historiens. Roland, ça a été un des personnages qui a été mis dans ces petites histoires et il servait à dire, vous voyez, haha, le héros sans peur et sans reproche, abattu par un traître. C'est ça qui intéresse Zemmour, c'est qu'il y avait un traître, Ganelon, vous savez, l'ignoble Ganelon. En fait, c'est une chanson de geste, vous le savez. Quant au sujet historique lui-même, c'est-à-dire à cette histoire du comte Roland, tué dans les Pyrénées, etc., on pense qu'il y a eu effectivement un comte Roland qui était un compagnon de Charlemagne, et à l'occasion d'un raid de Charlemagne en Espagne, l'arrière-garde de Charlemagne a été attaquée par des Basques. Encore un coup des Basques.
Mais c'est pas les Arabes.
Non, c'est pas les Arabes. Mais c'est bien de le mettre quand même sur le compte, parce qu'il laisse entendre. Hein. C'est les Sarrasins, quoi. Les Arabes, quoi. Mais oui. D'ailleurs, il n'a pas traité Charles Martel, mais je crois qu'il en brûlait d'envie. Mais je pense qu'il s'est retenu quand même au dernier moment, parce que ça aurait été quand même un peu gros, quoi. En fait, Roland, dans le récit zémourien, sert à justifier les guerres coloniales et à promouvoir une politique européenne anti-immigration arabe. Eh oui, ça tient l'histoire chez... Donc c'est pas la peine d'être très précis et de faire des références, etc. Il suffit de prendre un personnage, de faire appel aux quelques références que peuvent avoir les lecteurs, toi un petit peu distraits ou dont les souvenirs historiques sont loin, et vous brodez là-dessus, et vous voyez, hein, ces gens qui ont tout fait pour protéger la France d'une invasion arabe, car les Arabes nous menaçaient. Bien sûr que non. On sait que l'avant-garde, au temps de Charles Martel, 732, c'est 230 ans après Clovis, quelques années avant Charlemagne 800. Charles Martel a battu une avant-garde, d'ailleurs c'était pas des Arabes, c'était des Berbères selon toute probabilité, puisqu'ils venaient du Maroc, ils avaient traversé, ils avaient commencé à faire la conquête de la péninsule ibérique, et encore pas entièrement, hein. Il restait tout le nord qui n'avait pas été conquis par les Arabes. Ce raid de pillage des Sarrasins a été battu, combattu, détruit par Charles Martel. Donc Charles Martel est une grande figure. Voilà un gars qui nous protégerait des Arabes. Au passage, Charles Martel, au début de la guerre d'Algérie, il y avait un groupe d'extrême droite fasciste qu'ils appelaient Charles Martel et qui massacrait des Algériens. Armés par la police, l'armée, couverts par les autorités, ces gens, la préfiguration de l'OS, s'appelait Charles Martel. C'est la figure que présente l'extrême droite fasciste aujourd'hui. Bon, j'attendais Zemmour au tournant avec Saint-Louis. Louis IX, devrait-on dire. Saint-Louis, canonisé par l'Église, mais enfin, bon, c'est Louis IX, le Capétien. Qu'allait-il dire sur ce grand roi qui a fait la France et qui a persécuté les Juifs? C'est ça. Mais, enfin, il a fait porter aux Juifs des rouelles, etc. D'ailleurs, son descendant, Philippe le Bel, a fait rendre gorge à toutes les communautés juives en France pour leur piquer leur pognon, hein, je dis ça comme ça. Et ceux qui n'étaient pas contents étaient très légèrement brûlés. Hein. Donc, qu'allait-il dire sur Saint-Louis? On se dit, bah, il va se prendre les pattes, là, d'un un roi antisémite, en tout cas anti-juif, etc. Pas du tout. Zemmour retombe sur ses pattes, parce que nous n'avions pas compris... En fait, le roi Louis IX était un juif.
Ah.
En fait, c'était un descendant de David. Le chapitre s'appelle, page 82, Le roi juif. Il faut lire les acrobaties quand même. Si je vous dis tout après, il y aura plus de plaisir à lire. Attendez, je vais essayer de vous trouver quelques bonnes lignes quand même. Parce que le roi juif. Saint Louis récupère l'héritage messianique des juifs pour le royaume de Dieu sur terre. La référence, c'est vrai, au roi David existait dans la royauté capétienne. Donc il s'en empare pour dire, ben non, vous n'avez pas compris, il était juif. En fait, il avait une sorte de mission universelle. Bon, c'est tordu, mais bon, c'est Zemmour, quoi. En 1247, le roi ordonne la censure des passages offensants du Talmud pour la chrétienté. Les juifs seront dépouillés de leurs biens pour financer les croisades.
Ils spolient les juifs quatre fois pour financer les croisades. Et la rouelle, il faudrait peut-être préciser, c'est l'ancêtre de l'étoile jaune.
Oui.
Alors que c'est pas en étoile.
Oui, il s'agit de les stigmatiser.
Jaune, déjà.
Page 86, je cite. Le roi de France descend du roi David. Point virgule. Le peuple français descend du peuple d'Israël. La France qui combat pour Dieu est celle qui combat pour le droit. La France qui apporte la révélation, la bonne parole. France messianique, quoi. La France qui convertit, la France qui répand les saintes écritures et celle qui répand le code civil. Vous voyez un petit peu le passage des saintes écritures au code civil, etc. Et ont permis de conduire aussi. La France catholique et la France républicaine unies dans un même combat pour la grandeur éternelle d'une France messianique et civilisatrice. Donc ce juif assimilé, comme il se caractérise lui-même, pur fruit de l'école républicaine, va pour des raisons idéologiques se couler dans la peau d'un nationaliste de droite, nourri à la mamelle de Barrès, de Maurras, de Léon Daudet, de Benoît Méchain, etc. Là, c'est de moi. Hein. C'est pas très bon, mais c'est de moi. Donc c'est plutôt marrant, ce descendant d'un immigré d'origine juive qui devient héritier de Maurras. Les bras t'en tombent des mains. Qu'est-ce que vous voulez dire? Et tout est de la même eau. Alors bien sûr, il y a des faits réels qui sont cités très brièvement, et au passage en oubliant d'autres, mais Zemmour ne prend pas la peine, et pour lui c'est pas nécessaire de faire une explication logique, rationnelle, avec un discours construit, c'est pas nécessaire. Le tout est de démontrer dans l'histoire, grâce à ses personnages, ses anecdotes et trucs comme ça, qu'il a raison, Zemmour, d'avoir son discours politique actuel sur la France, les Français, etc. Ah tiens, encore une autre citation. Nous sommes tous des Catherine de Médicis. Et la Saint-Barthélemy était une nécessité politique. Oui, bien sûr, ça a été un peu sanglant. Rétablir l'unité du royaume. Tu vois, même dans cet état d'esprit, Robespierre n'est pas complètement négatif. En effet, il a défendu l'unité, l'intégrité de la République française dans des conditions extrêmement difficiles. Vous voyez la démarche zémourienne. Le but à poursuivre étant l'unité, la grandeur, etc., de la France et son rayonnement. Etc. Tout est bon, tout est justifiable. C'est ça, pour ça aussi, pour que Zemmour est un homme dangereux, hautement dangereux. On a beau en rigoler comme ça, mais c'est un homme hyper dangereux. Vous avez vu le dégât qu'a fait Drummond avec son antisémitisme. Zemmour, c'est la même chose. D'ailleurs, dans une interview au Corriere della Sera, en Italie, on lui posait la question comme ça, le journaliste lui disait, mais enfin, monsieur Zemmour, vous n'avez pas renvoyé 3 millions ou 4 millions d'Arabes, etc. Et là, il a répondu à un truc. Il a dit, mais vous savez, qu'est-ce qu'on a fait avec les pieds noirs qui revenaient d'Algérie? Déraciner des gens et les envoyer. Donc ça veut dire qu'il ne trouve pas choquant l'idée de renvoyer des gens de nationalité française. Hein. Vous me direz, avec Pétain, on a déjà donné. On était le seul État quasiment à extrader des nationaux dans un pays étranger, en quelque sorte.
Qu'est-ce qu'il dit des croisades, ou des Dreyfus, ou de régime de Vichy, est-ce qu'il en parle?
Croisade d'abord, bah, c'est positif, puisqu'il s'agit d'étendre la chrétienté, et que c'est le prestige de la chevalerie et de la royauté française, d'avoir fait en particulier, bon, ça se fait pour contenir le danger musulman. Parce qu'il présuppose qu'il y a un danger musulman. C'est complètement crétin. Je veux dire qu'au moment des croisades, on n'est pas en danger d'être submergé par aucun État musulman, un truc comme ça. Le danger musulman viendra beaucoup plus tard, et très régionalement, des Turcs ottomans, en Autriche, etc., dans les Balkans, etc., où là, il y aura effectivement une extension de l'Empire ottoman jusqu'à Vienne, Belgrade, etc. Mais là, les croisades, non. Bon. En conclusion, Zemmour est un personnage complexe quand même, et son discours n'est pas si simpliste que ça, même s'il est extrêmement dangereux et extrémiste à bien des égards. Zemmour, c'est un publiciste raciste, ultranationaliste, etc. Et c'est un homme dangereux, un homme dont il faut combattre le discours, pas seulement aller le chahuter comme ça, il faut combattre ses idées, il faut combattre... Parce qu'il est très diffusé, Zemmour, hein, sur les réseaux. C'est un des hommes les plus commentés. Hein.
Son bouquin, c'est un succès de librairie. Hein.
Oui, il est devenu millionnaire. Oui, ça y est, il a atteint la bourgeoisie.
Il est tellement bien présenté à la FNAC.
Et c'est en ça que je me sépare un petit peu de l'analyse de Gérard Mariel, et qui a une critique purement humaniste, donc anti-zémourienne, avec une analyse assez faible du contexte dans lequel s'est développé Zemmour. Hein, parce que Zemmour, c'est pas un hasard, c'est pas une espèce de comète comme ça isolée. Zemmour, c'est un homme du moment, et si Zemmour n'avait pas existé, il y en aurait eu un autre avec à peu près le même discours. Parce qu'il a des fonctions historiques, il a des fonctions politiques, Zemmour. Au départ, comment expliquer sa présence dans les médias, son omniprésence dans les médias? Noiriel dit, c'est parce que, comme il faisait de la provocation, il attirait, et il y a une logique du spectacle dans les médias, on va faire un bon match, quoi. On va prendre Zemmour et puis un autre. En fait, c'est le pugilat et ça attire, ça fait de l'audience, ça fait le buzz. Sans doute, c'est vrai. Les médias sont très putes. Hein, je vais vous le dire avec nuance. Hein. Ce sont des gens qui, pour avoir de l'audience, sont capables de vendre leur mère. C'est vrai. Alors, je ne dis pas tous les médias, pas tous les journalistes, mais enfin ceux qui dominent, hein, et ceux qui font la loi, d'abord ils appartiennent à des grandes puissances financières, ça, Zemmour n'en dit rien. Il n'y a aucune critique chez Zemmour de l'oligarchie, de la bourgeoisie au pouvoir en France, rien. C'est là que tu vois que pointe l'oreille du fascisme, c'est qu'il faut trouver des responsables qui ne sont pas des responsables. Il faut dévier, il faut que la colère du peuple, l'exaspération du peuple s'exerce contre eux. Les boucs émissaires, c'est très clair. C'est pas le grand capital financier. Non. C'est des intellectuels irresponsables qui font venir le genre de discours, etc. Et donc, il a une utilité, Zemmour. Et c'est pour ça qu'il a été, à mon avis, promu. Maintenant que c'est plus nécessaire qu'il soit sur tous les médias, on l'a prudemment retiré parce qu'il y a quand même eu des procès assez retentissants. Hein, parce que la loi punit l'antisémitisme, le racisme, l'appel à la violence, etc., ce sont des crimes qui relèvent des tribunaux dans la Constitution. Et s'il y a une plainte émise, hein, alors il y a des forissons qui disaient que les chambres à gaz n'existaient pas, que c'était des inventions des Juifs, etc. Il a été condamné, et donc on peut pas dire tout à fait n'importe quoi. D'ailleurs, Zemmour est relativement prudent dans certains trucs. On voit, hein, oui, tout est transparent. J'ai essayé de souligner les idées qui sont sous-jacentes, hein, ce qui est entre les lignes, mais il a la prudence de ne pas l'écrire tel quel, vous voyez, parce que ça relèverait des tribunaux. Et il ne faut pas que son bouquin, qui lui rapporte pas mal de pognon, soit censuré. Mais je voudrais ajouter encore une autre chose, c'est que le phénomène Zemmour n'existe pas en dehors d'un contexte d'appauvrissement, de liquidation, de dégradation de l'histoire et de l'enseignement de l'histoire. La prose zemmourienne, elle n'est possible que parce que il y a une amnésie extrêmement répandue. Les gens ne connaissent pas l'histoire, même les choses les plus élémentaires. Quand je vous disais que le programme de CM2 1933, là, du Lavis, c'est entièrement absent, totalement absent de l'enseignement. Moi, j'ai vu, à partir de la réforme Abi, se dégrader l'enseignement de l'histoire officielle, celle qu'on nous demandait d'enseigner, avec les manuels et les programmes. Par exemple, la disparition de la chronologie, qui a été un massacre. Je me souviens d'ailleurs de Sauboul, l'historien Albert Sauboul, qui pestait contre ces histoires thématiques qu'on commençait à enseigner aux enfants, c'est-à-dire l'agriculture du néolithique jusqu'à Pompidou. Ensuite, après, en cinquième, c'était le commerce du Moyen-Âge jusqu'aux multinationales, etc. Enfin, des conneries comme... Bon, les programmes se sont dégradés. Moi, j'ai des manuels, certains très anciens, les Malais Isaac. C'était très bon, les Malais Isaac. Relisez les éditions des années 50 de Malais Isaac. Entre 40 et 44, Malais Isaac n'a pas été édité. On ne sait pas pourquoi. Peut-être parce qu'il est un peu juif. Hein. Bon, d'ailleurs, c'est marrant, ça me rappelle un souvenir, excusez-moi. Il s'appelait Jules Isaac, je crois. Il a écrit en 1940 un tout petit opuscule. Et dans cet opuscule, il faisait la comparaison entre les élites françaises de 1940 et les élites athéniennes du temps de Démosthène et du danger macédonien. C'est-à-dire qu'il faisait un parallèle extrêmement pertinent entre la trahison des élites françaises, de la bourgeoisie française en 1940, et celle des Athéniens au moment du danger macédonien, qui se sont laissés acheter par l'or macédonien. Là, on peut, vous voyez, faire un certain nombre de comparaisons. Bon, Zemmour ne les fait pas. Je vous répète, il y a des périodes qui disparaissent. La Commune de Paris n'existe pas, entre autres, hein. Bon, vous me direz qu'il y avait quoi, 25 000 morts, non ? Lorsqu'on est historien, on utilise des concepts, des mots qui ont un contenu scientifique rationnel. chez Zemmour, par exemple la gauche, le mot gauche chez Zemmour, c'est intéressant à étudier. Gambetta, c'est la gauche, Clémenceau, c'est la gauche, Hollande, c'est la gauche. Enfin, ça dépend de ce qu'on appelle la gauche, évidemment. Alors, c'est très pratique parce que, comme ils mettent une étiquette un peu sur les gens et les choses, il est facile ensuite après de les dénigrer. Et vous voyez ce qu'ils ont fait, c'est encore un coup de la gauche. Et d'ailleurs, ils les renvoient dos à dos. Ça, c'est également typiquement du fascisme. Renvoyer la gauche et la droite dos à dos. Ça, c'est fasciste. Dire, mais non, la gauche, la droite. D'ailleurs, ils renvoient le capitalisme et le communisme et le capitalisme dos à dos. Ce sont deux matérialismes insupportables qui suppriment l'âme de la France, et pas les conneries du même tabac, etc. Non, alors, où sont les repères de la nation? Vous voyez, c'est pas de l'histoire. C'est un peu comme le Canada Dry. Ça ressemble à la bière, ça sent la bière, mais c'est pas de la bière. Là, tu dirais de l'histoire, hein, mais c'est pas de l'histoire. C'est tout à fait autre chose. Alors, c'est un homme dangereux, je le répète, parce que il se contente pas d'être raciste, anti-arabe, anti-musulman, mais il est anti-homosexuel, anti-féministe, anti-droit de l'homme. Pour lui, c'est une faiblesse, hein. Il tape également sur la mondialisation et l'Union européenne, et sur la classe politique, les intellectuels au pouvoir, etc. Alors, ça aussi, c'est un avantage de Zemmour pour les gens qui nous gouvernent, c'est la confusion. Tous dans le même sac. Ça permet, par exemple, à certains de dire, vous voyez, le Front National, c'est les populistes, et Mélenchon aussi, c'est les populistes, ils sont tous les deux contre l'Union européenne. Vous comprenez? C'est très intéressant. Parce que, en fait, le danger de Zemmour, je terminerai ma conclusion là-dessus, c'est qu'il dit des choses justes. Il y a réellement, enfin, moi, c'est mon opinion, un problème de souveraineté nationale. Jusqu'à ce qu'on me prouve le contraire, la démocratie et la République en France se sont développées sur la base de la souveraineté de la nation, c'est-à-dire du peuple, des citoyens, qui désignent des représentants qui représentent la nation. Ça, c'est à la base même de la démocratie, puisqu'il faut utiliser les grands mots. À partir du moment où il n'y a plus de souveraineté, et effectivement aujourd'hui, dans les institutions de l'Union européenne, il n'y a plus de souveraineté nationale, puisque toute une partie très importante de la législation se fait ailleurs. Et les décisions se prennent dans la Commission de Bruxelles, Commission européenne, qui n'est pas élue. Donc il y a un réel problème de souveraineté nationale qui peut se poser à des gens qui ne sont pas fascistes ou qui ne sont pas antisémites ou anti-arabes. C'est mon cas. Hein. Je trouve ça assez gênant. Jusqu'à présent, je n'ai pas vu d'organisme souverain européen élu par le peuple européen. Ça n'existe pas. Le Parlement européen, c'est une foutaise. Enfin, aucun pouvoir. Le pouvoir, il est ailleurs. Donc il y a un réel problème, effectivement, de fusion de la France. Au profit de qui? Alors bien sûr, il ne le dit pas, Zemmour, évidemment. Il ne va pas jusqu'au bout. Ouais. Vous ne voudriez pas que Zemmour ait un discours subversif et révolutionnaire. Mais il soulève un vrai problème. Je me souviens que je crois que c'était Fabius, Laurent Fabius, ministre socialiste, qui avait dit un jour, le Front National soulève des vrais problèmes, mais apporte de fausses réponses. Mais Zemmour, c'est un peu ça aussi, hein. C'est vrai qu'il y a un problème de démocratie des médias, de pensée unique en France. Une seule pensée. Et les gens qui n'ont pas cette pensée-là, bah, ils passent pas dans les médias. Vous voyez, là, le poison zémourien, c'est qu'il soulève d'authentiques problèmes politiques, mais évidemment, il apporte des solutions qui sont des solutions fantaisistes. Hein. D'ailleurs, on pourrait faire un parallèle avec le fascisme des années 30 en France. Eux aussi soulevaient le problème de la Troisième République n'était point sans tâche. Hein. C'est loin s'en faut. Et il y avait de véritables scandales dans la République, la Troisième République radicale ou de droite, peu importe. Sauf qu'évidemment, le fascisme, il disait, qu'est-ce qu'il faut? Il nous faut un Mussolini. Tous les métèques, tous les juifs, on les vire. Et Mussolini, etc., poigne, quoi, en quelque sorte. C'était ça, le fascisme des années 30. Eh bien, on retrouve un petit peu la même chose aujourd'hui. C'est-à-dire dans cette extrême droite qui est très virulente. Mais j'ai terminé.
Voilà, c'est ici que s'achève la conférence de notre ami André, que tu retrouveras prochainement dans cette émission, sur cette même antenne. En attendant, tu peux retrouver ce programme et plein d'autres sur notre site, polymixetlavoixoff.com. Ce n'est qu'un combat. Continuons le début. Salut.
Terminé.
Les petits comptes alternatifs doivent s'arrêter maintenant.
Radio G. 105 FM.
pastèque, tu connais ou pas? Tu connais ou pas?
Les nerfs à vif, je veux être honorable. Guette le chrono, ma gueule. Aussi rapide qu'un faux domaton. L'oseille et mon achille talon. Envoyeux de bitch qui m'attendent. Merde, obstiné par la monnaie. Exténué par le rythme de vie. Sa robe au Gucci m'assassine. Comme une dose de morphine. D'ailleurs, je vois qu'il est 4h30. Donc je me sers un verre pour me calmer. Une envie folle de jeter des billets, des billets. Je suis dans ma folie, beaucoup plus sombre qu'un gothique. Yo, d'ailleurs, je vois qu'il est 4h30. Donc je me sers un